Un bon boulot, témoignages, discussions et reportages sur les grandeurs et les misères du travail. Y a-t-il des bons boulots? Qu'est-ce qui caractérise un bon boulot ou au contraire un sale boulot? Épanouissement, reconnaissance, insertion sociale, créativité, maîtrise d'un métier, sentiment d'utilité ou bien aliénation, émiettement du travail, perte de sens, management toxique, burn-out, dépression. Qu'est-ce qui fait la différence? Le travail lui-même, ses conditions d'exercice ou les possibilités offertes à une personne de s'y investir et d'y gagner une certaine autonomie? Le sujet est vaste et délicat quand il s'agit de témoigner. Nous parlerons métier et nous aborderons les raisons pour lesquelles un individu s'épanouit dans son travail. Nous chercherons aussi à comprendre sous quelles conditions un bon boulot pourrait être dévalorisé et devenir parfois un sale boulot. À 20 ans, dès la sortie de son école hôtelière, Mathieu Dorval travaille pour des grands restaurants parisiens. Quelques années plus tard, fatigué des cadences infernales et de la pression permanente des chefs, il démissionne et découvre que l'on peut vivre de la peinture en dessinant dans la rue. Il sera ensuite professeur de cuisine et peintre, puis seulement peintre. Dans cet entretien, nous le suivons depuis son premier émerveillement enfant devant le travail d'un peintre, son oncle, à Louctudy, jusqu'à son installation dans son atelier de Crozon.
Tous les enfants dessinent, hein. On dessine beaucoup à l'école, hein, à la petite école, l'école maternelle, tout ça, on dessine énormément. Et la différence, c'est que effectivement, moi j'ai continué quand beaucoup s'arrêtent. Ben en fait, les peintres ou les artistes qui font de la peinture, eux, ils continuent. C'est ça qui effectivement fait la différence. Mais au départ, tous les enfants de ce que j'ai vu, des miens déjà quand j'allais les amener à l'école, et puis de mes souvenirs à moi. Il y a toujours un espèce de plaisir incroyable à touiller la peinture avec un pinceau, de l'eau, à l'étaler. Bon voilà, je pense qu'il y a une certaine magie là-dedans et de faire jaillir comme ça les couleurs, les formes. Et du coup, bon, moi je suis toujours resté sensible à ça. Il y avait aussi, ça c'est capital, dans la famille, chez mon grand-père paternel à Louctudy. Un oncle écossais et qui était peintre, qui s'appelait Alexander Gaudi, et qu'on a vu quand j'étais enfant, qu'on allait chez mes grands-parents pour les vacances d'été à Louctudy, qu'on voyait peindre sur la terrasse. Bon, en plus, il était très charismatique, les cheveux longs en arrière, la chemise à fleurs, cigares, tout ça. Bon, il parlait anglais, en français avec un accent assez rigolo, et il avait un énorme talent. Voilà.
Et il peignait tous les jours
Ah bah lui, quand il venait chez mon grand-père, il était en plus, lui, c'était vraiment ça, une source inépuisable pour lui. Le port de Louctudy, les marins, les pêcheurs, le retour des bateaux, les bateaux qui carénaient juste devant la petite plage là sur le port, en face de la Perdrix, le phare là assez emblématique là, damier noir et blanc là. Et en fait, à l'époque, dans les années 60, 70, enfin, ouais, 70, ouais, quand j'étais gosse, les bateaux venaient caréner, là, sur la plage. C'est-à-dire qu'ils venaient à marée haute, à marée basse, la mer se retirait, les bateaux étaient couchés sur le côté, et puis ils refaisaient le minium, quoi, l'anti-fouling, voilà, c'est ouais. Ça. Et donc, et les bateaux de... Ouais, d'abord, c'est des... Enfin, vous voyez, c'est des formes extraordinaires, des couleurs extraordinaires. Enfin, il y a toute une vie, là, qui était vraiment assez fantastique. Et pour un peintre de son talent... voilà, c'était une source inépuisable, en fait. Je crois que, franchement, c'était pour lui hyper important de venir pendant 2 mois, comme ça, en Bretagne. Le reste du temps, en Écosse, il faisait beaucoup de portraits, en fait. Il était notamment portraitiste officiel de la reine Elisabeth, etc. Enfin, il a fait partie du pool des artistes contemporains de l'époque qui l'ont portraituré.
Donc c'est un personnage un peu fascinant, mais il vous a donné un pinceau
Non, pas du tout. Alors, par contre, il fallait quand même plutôt le laisser tranquille, quoi. Nous, on était derrière lui, on regardait. Bon, voilà, mais enfin, il donnait pas de cours. Hein. Et on l'intéressait pas plus que ça, quoi. Mais malgré tout, il y avait quand même l'odeur de l'huile de lin, la térébenthine. Et puis, c'est un grand peintre, hein. C'est vraiment un grand peintre. On va dire, pour situer, il y aurait du Mathurin Méheux, du Matisse et du Giraud, le dessinateur de Blueberry. Hein, voilà.
Oui,
Si on condense un peu tout ça, eh ben on aurait à peu près, on pourrait à peu près avoir son style, quoi.
donc là, ouais, bon, on voit l'été en Bretagne, à Locturie, magnifique. Un peintre qui arrive, un peu fascinant. Et vous qui aimez dessiner et peindre déjà.
Avec mon frère aîné, on faisait beaucoup de bandes dessinées. Mais vraiment, enfin, de la bande dessinée de gosse, hein, des histoires de western, pas très bien dessinées, mais malgré tout. Et en fait, je me rappelle, on était trois frères, hein, très rapprochés. Quasiment en 3 ans, on était trois. Donc, on jouait à ce qu'on appelait, on jouait au patron. C'est-à-dire que c'était un peu comme la rédaction de Gaston Lagaffe. C'est que mon frère aîné et moi, on était les dessinateurs. Et notre petit frère, Denis, lui, il faisait le patron, il faisait celui.
T'es pas
C'est le rôle
content?
de Prunelle ou de Fantasio, quoi. Il vient récupérer les dessins. Voilà. On
D'accord.
jouait à ça, en fait. Donc, on devait dessiner. Il nous disait, bon, ben voilà. Bref. Et donc, moi, j'ai toujours continué comme ça, bon, à dessiner un peu, à raconter des histoires. Et après, j'ai commencé une bande dessinée, mais j'étais quoi, en CM1 peut-être? CM2. J'ai commencé une bande dessinée, voilà,
Ok.
perso, un peu plus étudiée quand même, enfin, je veux dire, avec une intention un petit peu plus,
Appuyer de résultats.
ouais, appuyé, on va dire, voilà, avec la volonté vraiment de raconter une histoire. Alors
Là,
que,
c'est le dessin plutôt. C'est le dessin, il y a les couleurs aussi peut-être.
ouais, c'est le dessin. Et c'était surtout aussi, je pense, malgré tout, la volonté de raconter.
Ah oui.
Je crois que j'aime bien ça, en fait.
Et oui, alors bon, donc ça continue sous la forme de l'enfance et de l'adolescence. Et à un moment, il faut bosser. Est-ce qu'à ce moment-là, un enfant de 16 ans, par exemple, peut envisager d'en faire un métier ou pas du tout? Comment ça s'est passé pour vous, hein?
Non, moi, c'était la cuisine. Parce que finalement,
D'accord.
mon frère aîné, lui, il a continué à dessiner également. Il a fait les Beaux-Arts de Paris et tout ça. Mais moi, très jeune, j'ai perçu que ça devait être sûrement un métier compliqué, artiste, tout ça,
Oui.
pas sûr. J'ai senti ça. Et j'avais aussi quelque chose qui me plaisait beaucoup, c'était la cuisine. Je me rappelais les grandes tablées chez mon grand-père, à Locturie, justement, où il avait, comme mon grand-père, il a eu 10 enfants, donc il y avait beaucoup d'oncles, de tantes, pour le Nouvel An, tout ça, il y avait des grandes tablées. Et bon, je sais pas, très tôt, j'ai commencé à me faire à manger moi-même mon petit déjeuner, puis à commencer à faire à manger, quoi, ça m'intéressait, j'aimais bien.
D'accord.
Et donc du coup, je me suis dit, j'ai commencé à dire, je vais faire cuisinier. Je voulais faire cuisinier sur le petit quinquin, qui était un chalutier de Locturie, n'est-ce pas?
Partir
Après,
avec les pêcheurs.
voilà, alors parce que oui, il y avait la notion de voyage,
Ah oui, ils sont
voilà,
rêvés depuis
notion
longtemps.
de prendre la mer, les bateaux, moi j'aimais bien, voilà, je me disais, tiens, cuisinier sur le petit quinquin. Il y a un prof quand j'étais en troisième, j'avais mis ça sur la petite fiche qu'on remplit au début de l'année. Il demande, bon, voilà, comment on s'appelle, tout ça, machin, puis qu'est-ce qu'on voudrait faire plus tard? Moi, j'ai mis cuisinier sur le petit quinquin. J'étais en troisième quand même. Et puis le prof, je ne sais plus comment il s'appelait, dit comme ça, Dorval, cuisinier sur le petit quinquin. C'est pas très ambitieux tout ça. Bon, alors après, voilà, je me suis dit, tiens, c'est vrai. Enfin, et par contre, bon, en découvrant la cuisine, en étant élève au lycée hôtelier à Dinard et tout ça.
C'est ça, après donc vous allez faire un BEP de cuisine,
Ouais,
puis
BEP de
un
cuisine.
BTH, c'est ça,
Ouais, après,
bac
on
technique
pouvait continuer,
hôtelier.
ouais. Ouais,
Ouais.
voilà, ouais. Donc, j'ai fait
Donc,
4 ans au lycée hôtelier.
ouais, c'est pas rien, là vous
Ouais.
devenez professionnel de la cuisine.
Bah, quand on sort, ouais, on est formé, quoi. On va dire, on sait faire un poulet rôti, une blanquette, un bœuf bourguignon, des œufs à la portugaise. Bon, enfin, voilà, on sait faire plein de choses.
Ouais. Mais alors là, après, vous choisissez d'aller dans les grands restaurants. Enfin, je sais pas si c'est un choix. C'est-à-dire, vous allez assez vite, vous arrivez assez
Ouais.
vite à Paris dans des restaurants étoilés Michelin, c'est ça?
Ouais.
C'est
Bah
pas
quand
rien.
même, qui peut le plus, peut le
Ouais.
moins, quoi. Je veux dire, l'idée c'était quand même, bah, parce que si c'est pour être très bien dans une cuisine, mais s'ennuyer à faire des steaks frites avec une feuille de salade, bon, alors là, c'est le bagne. Par contre, dans l'idée de gastronomie, etc., bon, bah, j'avais aussi le sentiment peut-être de poursuivre une forme un peu de tradition familiale. Quand on était chez mon grand-père à Loctudy, bon, bah, quand il y avait toutes ces grandes tablées, là, on apportait un plat. C'était le rôti de porc de chez Marie-Louise Lebert, avec les patates autour, qui avait cuit dans le beurre clarifié, tout ça. Bon, voilà, il y avait, je savais ce que c'était qu'un bon plat, que les gens, comment on apprécie un bon plat. Je me rappellerai toujours, au Nouvel An, mon grand-père, il sortait un sauterne Raymond Lafont. Hein, pour le repas de Nouvel An, quoi. Truc, ça commence à 2h l'après-midi, ça finit à 8h le soir, quoi. Donc il y avait un peu de foie gras et il y avait le sauterne Raymond Lafont. Et voilà, donc la gastronomie, les vins fins, tout ça, oui, bah, c'était quelque chose qui m'attirait. De l'autre côté, il y a aussi cette filiation, on va dire, Loctudy, bretonne, mais ma mère, elle est italienne. Mon autre grand-père, il est italien. Et lui aussi, pour les grandes occasions, il cuisinait. Il faisait des raviolis à la viande de veau hachée, etc., avec des herbes. Il faisait son bouillon, il faisait l'osso buco, il faisait la cuisine du nord de l'Italie, quoi. Donc bon, voilà, il y avait quand même...
Ça se passe bien. Vous arrivez dans l'endroit dans lequel vous voulez être, un restaurant où on fait de la vraie cuisine. Ouais. Et comment ça se passe alors, le premier contact avec le boulot, là, en plein cœur d'un resto parisien qui, en plus, prétend ou qui a l'étoile, donc, ou plusieurs.
Ouais. Bah, c'est dur, on en prend plein la tête direct. Hein. C'est comme, c'est le gros coup de batte de baseball, parce qu'en fait, on commence à 9h le matin, on finit à 14h, 14h30, on a une petite coupure, on reprend à 17h30 pour finir à 23h30. Donc quand on a 18 ans, bah, j'avais quoi, 18, 19 j'avais, là, 19. Bon, à côté de ça, moi et mon frère, il était au Beaux-Arts, là c'était même pas le Club Med, c'était carrément, c'était une autre planète, quoi. Donc c'est sûr que, au bout de quelques temps quand même...
Combien de temps ça a pris Combien de temps ça a pris pour qu'il y ait une petite fêlure, quelque chose qui se dise, oula, peut-être que...
Tout de suite.
Ah, tout de suite,
Mais même à l'école déjà, même à l'école hôtelière déjà.
D'accord.
Même déjà à l'école hôtelière, des fois, il y avait des trucs, je me disais, oh là là, ça va pas être simple l'histoire là. Mais bon, on veut pas voir, et puis...
Vous avez tenu quand même, vous avez
Non. Ah ouais, mon père était assez autoritaire quand même. Il n'était pas trop question de dire à mon père, tiens, l'école hôtelière, je vais arrêter. Ah, dans mon esprit à moi, peut-être que certains...
Mais même au resto, vous avez tenu aussi.
Ouais. Il y a un côté comme ça où, bon, voilà, à partir du moment où je m'étais engagé, voilà. Mais le premier resto à Paris, là, ça s'appelait chez Gérard et Nicole. On les appelait Monsieur Gérard, Madame Nicole. Ça, on avait vraiment l'impression que ça faisait un peu claque, quand même. Hein. Ça faisait un peu Madame Nicole.
Bordel.
Ouais. Mais pas du tout. C'était un restaurant, une étoile Michelin, très bien. Comme client, il y avait Jacques Dutronc, Serge Gainsbourg qui venait régulièrement. Ouais. Il y avait aussi Lewis Furet, un type
québécois.
Ouais, un québécois, voilà. Et il était marié à
Carole Laure,
voilà, c'est ça, voilà.
Ok, ouais.
Non, mais c'était une actrice. Elle a joué avec Yves Montand dans un film, je ne sais plus lequel.
Chanteuse d'actrice.
Ouais. Et puis lui, Lewis Furet,
c'était
un compositeur et tout ça. Bon, enfin voilà, c'était un restaurant avec. Voilà, il y avait un peu de monde. Il y avait des super recettes que j'ai toujours j'ai toujours eu en tête. Il y avait un ravioli de langoustine à la moelle de bœuf. Enfin, c'était très très bon. Hein.
Super.
C'était vraiment super. Puis la langoustine, ça faisait le lien avec l'Octudy.
Oui. Mais n'empêche qu'à ce moment-là, vous ne pouvez pas, à côté du travail, comme beaucoup de gens font, ils vont faire un travail alimentaire et à côté, ils vont continuer à peindre, à dessiner, tout ça. Là, ce n'est pas possible, il n'y a pas l'énergie possible.
Ah si, quand même.
Ah quand même,
Ouais. J'avais continué, la bande dessinée que j'avais commencée en 77, à cette époque-là, je la continuais encore. Hein.
Ah oui.
Ouais, c'est pas un boulot, ça s'étale sur presque 10 ans, je crois. Au début, on voit le dessin, il est assez maladroit. Puis après, il se perfectionne un peu, tout en restant maladroit. Hein. Je ne suis pas un grand dessinateur. Hein. Ça pourrait même être prétentieux de dire ça. Mais il y a toujours... Et puis mon frère est au Beaux-Arts. Hein. Tous les potes que je fréquente à l'époque, c'est les potes à mon frère. Et ils sont tous au Beaux-Arts. Par exemple, pendant ma coupure, je vais au Beaux-Arts.
D'accord.
Moi, je travaillais à Alésia. Donc, quand j'avais fini à 14h30, je prenais Porte d'Orléans, là, je descendais à Saint-Germain. Et à l'époque, les Beaux-Arts de Paris, c'était un moulin. On rentrait, il n'y avait pas besoin, il n'y avait pas de guérite à l'entrée. On rentrait, on sortait, on faisait. Voilà. J'allais, des fois, je prenais un cahier, j'allais suivre le cours de modèle vivant.
Ah, d'accord. Mais il y avait un grand écart, quand même.
Ah, énorme! Énorme. Ah bah, les gars avec qui je bossais au restaurant, quand je leur disais que j'étais allé aux Beaux-Arts cet après-midi, les mecs, ils étaient là. Ils ne comprenaient pas, en fait. Et il y avait un décalage, effectivement, entre la vie que je pouvais avoir le week-end avec mon frère, les copains. Il y avait déjà des soirées, trucs comme ça. Et puis, le milieu professionnel dans lequel j'évoluais, qui était là, c'était boulot. Et puis, c'était différent, quoi.
Mais vous vous en accommodez parce que vous avez, je crois, avoir bien entendu la valeur travail, le pater, il faut gagner sa vie. On est sérieux, quoi, au boulot. Mais malgré tout, ça se fissure. Ce serait intéressant de voir comment ça se fissure et peut-être s'il y a un événement déclencheur qui fait que, à un moment, parce que vous basculez.
Voilà.
Alors, comment basculer de deux mondes si étanches entre eux ?
D'abord, quand même, il y a eu ce premier restaurant-là dans lequel j'ai travaillé. J'ai travaillé 6, 7 mois, 8 mois. L'été, j'allais faire des saisons sur Brittany Ferries. Bon, là, c'était un peu pas les vacances, mais Brittany Ferries, on bossait une semaine à bord, une semaine à terre.
Non, mais c'est dur à bord.
Ouais, enfin, non, ça va, attends, on s'éclatait à bord. C'était génial. Tous les soirs, c'était la fiesta. Il y avait escale à Plymouth. On faisait une escale à Santander. On travaillait 12 heures par jour, ce qui était la même chose que ce que je faisais quand je travaillais à Paris. Sauf qu'au bout d'une semaine, j'avais une semaine à la maison.
Ouais,
donc on bosse dur. C'est vrai, c'est dur. C'était pas plus dur que ça n'était à Paris. Sauf que là, les choses étaient quand même, c'est une grosse société. Il y a des choses à respecter. Dans l'hôtellerie et la restauration à l'époque à Paris, les heures sup, c'était même pas la peine d'aller voir le patron, lui demander des heures sup. Il te traitait de feignasse déjà direct, d'entrée, quoi. Donc ça n'existait pas. Hôtellerie, restauration, ça n'existait pas, les heures sup.
Et donc, juste peut-être entre parenthèses, dans le Télégramme, il y a une semaine, il y avait le cas d'un harcèlement d'un cuisinier sur la Brittany Ferry.
Le harcèlement en cuisine, les choses ont commencé à évoluer, mais moi, j'ai vu des choses, effectivement, complètement anormales. Complètement anormal. Il n'y avait pas de. C'était un milieu, vous imaginez un peu, 5, 6 personnes, 12 heures par jour, à travailler dur. Il n'y avait pas de filles à l'époque. Maintenant, ça s'est féminisé, le métier s'est féminisé, etc. Mais à l'époque, non. Donc, c'était. Le chef est tout puissant.
Ouais, c'est ça qui.
Parce que quand on envoie l'assiette, on réclame, un jarret de veau, table 12, oui, chef. C'est ça. Donc, le mec, des fois, il y en a certains, il pète un câble.
D'accord. Alors, pour vous, ça s'est passé comment ? Entre le moment où vous êtes dedans, vous faites le boulot, quelles que soient les conditions, et où ça se fendit, et puis, à un moment, vous arrêtez.
Je ressentais quand même le besoin à un moment. Après avoir fait une saison, je suis parti en Inde, j'ai voyagé, entre différentes périodes dans les restaurants, par exemple.
D'accord.
Je m'étais dit, puis je voyais mon frère, lui, il était allé en Grèce l'été avec un pote, mon autre frangin, pareil, il était parti en Afrique du Nord avec sa copine. J'étais là, c'est bien, mais enfin, moi, j'avais levé le doigt, j'avais dit, j'aimerais bien, moi aussi, quand même, Donc, j'étais parti en Inde pendant 7 semaines, mais parce qu'il y avait aussi une nécessité, un besoin, quand même, de voir autre chose, et voilà. Je sentais bien qu'il y avait un petit décalage, un peu enfermé, les caves, les cuisines, en sous-sol, à Paris, tout ça. Et puis, ce qui m'avait fait rêver dans la cuisine, c'était aussi, au-delà des grandes tablées chez mon grand-père et tout ça, une espèce de joie de vivre un peu. Il y avait aussi la magie qu'il y avait dans, quelques pommes, de la farine, du beurre. Et puis, tout ça, au bout d'un moment, ça sent la tarte aux pommes. Et voilà.
La matière.
Donc, on transforme. Il y a un côté magique un peu. Il y a un peu comme le... Comment dire ? C'est un peu la tanor, quoi.
La tanor.
Le... l'endroit ou le four où on transforme les choses, où on transforme le plomb en or, quoi. En c'est un peu ça. Et donc, voilà, l'alchimie. Et je me rappelle, moi, j'étais quand même assez contemplatif. Moi, je pense que j'étais un gamin assez contemplatif. Et quand ça m'arrivait de penser, je me disais, ah ouais, c'est bien. Donc, du coup, en cuisine, on va... Le champ qui est derrière moi, le champ de blé, ça va s'accommoder aussi bien avec le bar qui est là, sous l'eau. Et tout. Je trouvais qu'il y avait une espèce de poésie, quelque chose de, un peu d'universel qui englobait un petit peu tout là-dedans, qui me plaisait. Mais ça, c'était en théorie. En pratique, c'est quand même autre chose, quoi. C'est des obligations tous les jours, le boulot, debout, le bruit. Et puis, il y avait la peinture, quand même. C'était là, en fait. D'accord. C'est quelque chose qui était en germe.
Vous m'avez parlé, quand on a préparé l'émission, quand même, à un moment, il y a eu un coup d'éclat, un peu.
La rupture, c'est ça.
Une grosse tension, chef qui se permet...
Non, mais il y a eu un moment... C'est une tension, c'est aussi une forme de dépression, en fait. Hein. Je crois, si j'analyse maintenant, avec le recul, je l'ai peut-être jamais formulé comme ça. Je pense qu'à un moment, j'étais arrivé, j'étais dépressif, hein. Parce que moi, aller bosser dans les cuisines, etc., j'en pouvais plus. C'était le bagne, quoi. Je me levais le matin, j'étais dans le bus, je me demandais, mais qu'est-ce que je fous là, où je vais, Alors, j'avais trouvé toujours après, j'ai bossé au Plaza Athénée, on était 35 en cuisine, et là, c'était très réglementé. On commençait à 9h, on finissait à 15h, on reprenait à 19h, on finissait à 23h. Moi, j'étais à la grillade à 23h, je posais mes trucs. Le mec arrivait, je lui disais, il y a ça, faut finir, et puis voilà. Et lui, il faisait la nuit après, derrière. Donc, j'arrivais toujours à trouver des solutions. Mais il y a eu un moment où, il fallait vraiment trouver de l'oxygène, quoi.
C'est ça.
Et oui, effectivement, je crois que j'avais dû bosser dans un resto. Et un jour, le chef... j'y arrivais plus, en fait. J'avançais plus, quoi.
Vous n'alliez plus assez vite, quoi.
Ah non, j'avançais plus, voilà.
OK, et là... Là, c'est pas mal parce que donc vous quittez ce resto.
Ah bah ouais, je me fais virer même.
Vous faites virer, il n'y a plus de pognon, le papa peut s'inquiéter, il faut vivre. Vous avez encore une fois la valeur travail et vous ne voulez pas dépendre des autres pour vivre, donc il faut gagner sa vie. Malgré tout, en venant juste d'arrêter son travail. Et là, c'est intéressant l'anecdote que vous m'avez racontée. Je vais vous laisser la raconter. Vous allez donc dans Paris.
Ouais, j'ai erré pendant 2-3 jours. J'ai quand même erré un peu en me disant qu'est-ce que je vais foutre ? Parce que je me rendais bien compte que je ne pouvais plus travailler dans les cuisines. C'est plus possible. Et je vois un gars qui avait déplié au sol. Et une reproduction de Temara de Lempicka, une peintre des années 30, un peu art déco et tout ça. Et il était en train de dessiner par terre boulevard Saint-Michel. Et puis il avait un chapeau posé par terre. Il y avait plein de pièces de 10 francs dans son chapeau. Donc du coup, je suis allé voir mon frangin, je lui ai dit, tiens, j'ai vu ça et tout. Comment on peut faire et tout. Mon frère me dit, c'est pas compliqué. Tu prends une grande feuille, tu fais un quadrillage, tu vas chercher une carte postale, ce que tu as envie de reproduire. Tu fais un quadrillage également sur ta carte postale et tu reproduis le dessin, les formes exactes pour savoir placer l'œil au bon endroit, tout ça. Et ensuite, au pastel sec, tu démarres. Et puis, je suis allé au Louvre. J'ai acheté une carte postale de la grande odalisque de Ingres. Il est là, il est roulé là, le dessin. Je peux même le dérouler et te le montrer, si tu veux.
Ah oui, mais tout à l'heure, on va visiter.
Ouais. Je le vois, il est toujours là. Et donc, du coup, c'est le visage de la grande odalisque de Ingres. Donc, j'ai fait mon quadrillage, j'ai entamé le dessin. À partir du moment où ça commençait à venir, j'ai été scotché mon dessin entre le Pont des Arts et la cour carrée du Louvre. Et là, j'ai fait 200 francs dans la journée.
Pas mal, ouais.
Voilà.
Et là, c'est drôle aussi, parce qu'il y a un grand Yougoslave qui arrive.
Moi, comme je me disais, et le lendemain, j'y retourne, et je mets mon dessin, tout ça, et là, je vois effectivement un grand mec, pas loin de 2 mètres, mais il jouait de la flûte traversière. Il y avait quand même... C'était une erreur de casting, mais non, pas du tout. Et puis le gars, il me dit avec son accent, un fort accent et tout, il me dit, c'est bien, il est bien ton dessin et tout ça, tu vois, mais tu ne vas pas pouvoir rester là. Alors, je lui dis, oui, parce que tu vois, les gens là, ils viennent du Pont des Arts, ils passent devant toi, ils te donnent une pièce, Puis moi, tu vois, je joue de la flûte là-bas. Et s'ils t'ont donné à toi, ils ne me donneront pas à moi. Alors bon, évidemment, il n'était pas question de discuter. Ouais. Et mais sympa, le gars, il me dit, mais tu peux aller derrière Notre-Dame. Va derrière Notre-Dame, parce que là, il y a beaucoup de monde et tout ça. Donc effectivement, bah, j'ai enlevé mon dessin. Et je suis allé tout de suite m'installer derrière Notre-Dame. Et là, j'ai fait 300 francs. Parce qu'en fait, les gens, les bus déposaient les touristes devant Notre-Dame et ils les récupéraient derrière dans le jardin. Il y avait un petit jardin derrière Notre-Dame, il y a un jardin public. Et les bus venaient récupérer les touristes derrière. Et moi, j'avais mon dessin là. Et, et du coup, bon voilà, ça donne énormément confiance
ouais.
en fait.
Hein, voilà, ça vous a donné énormément confiance. Ouais, ça donnerait pas à tout le monde confiance comme ça. Bref, à ce moment-là, vous, dans votre tête, vous commencez à vivre de la peinture. L'argent qui tombe, il tombe grâce à votre peinture et vous êtes plutôt peintre que cuistot là. Et après, malgré tout, la cuisine va vous aider parce qu'elle va quand même vous donner un métier de professeur. Vous allez enseigner la cuisine. Ouais. Et là, c'est intéressant aussi de voir comment quelqu'un qui commence à se diriger sérieusement vers la peinture, mais bon, la peinture ne l'a pas qui veut. Vous avez deux métiers parallèles. Vous êtes professeur. Vous êtes cuisinier, enseignant, et il y a des événements, c'est pas mal de les voir, les points de bascule, essayer de voir les points de bascule qui fait que la confiance grandit encore, et surtout, concrètement, on peut envisager un système économique, la dimension économique de la peinture. Moi, je me souviens d'une exposition à l'Armour-Plage, et il y a peut-être d'autres événements, un tableau vendu, voilà, si vous pouvez détailler ça, ouais.
Bah déjà, quand même, juste rapidement, un truc assez drôle. Il y a quand même, quand j'étais derrière Notre-Dame, il y a un chauffeur de bus portugais et qui vient me voir et qui me dit « Oh, mais c'est joli, ton dessin et tout ça, mais est-ce que tu pourrais faire un dessin de moi et ma femme ?»
Ah, super.
Alors, je dis « Bah ouais, pas de problème. » Donc, et le lendemain ou le surlendemain, il m'amène une photo de lui et sa femme. Vraiment, voilà, côte à côte, la photo de tronc comme ça. Lui en chemise, elle avec une robe et tout. Bon. Et on discute du format. Il voulait un grand truc. Hein, et c'était 1m20 sur... Et donc, j'ai fait ça à la maison. Ça faisait tout à fait les Bollywood, les gens affiches cinéma indien. Complètement. C'était complètement le truc. Parce qu'il avait... En plus, c'était à l'époque... Lui, il était jeune. Quand il m'avait la photo, il est jeune. Il a une espèce de col pelle à tarte et tout. Bon, bref. Le truc, il n'y a pas plus kitsch. Mais bon, je lui ai vendu, par exemple.
Ah oui, là, ça commence à être
voilà. Sérieux, ouais. Et puis, il y avait aussi, dans Paris, j'avais vu un jour, en passant comme ça, une reproduction d'un tableau de Temara de Lempicka, toujours Temara de Lempicka. Et je dessinais des repros de Chardin, etc. Et je lui en ai proposé, il les a vendus. Et après, il m'avait demandé aussi, Boulevard Voltaire, un antiquaire, un petit truc comme ça, voilà. Donc, il y avait quand même... et aussi une amie, qui était, elle, enseignante, elle était enseignante en économie, m'a dit, mais Mathieu, tu devrais quand même, tu peux aussi... Il y a des concours à l'éducation nationale, tout ça, pour la cuisine, devenir prof, tu devrais y penser et tout. Et donc, parallèlement, j'avais effectivement fait un dossier et j'avais été très rapidement embauché comme vacataire ou je sais plus comment on appelle ça, mais bon, j'étais pas titulaire, mais
Métrox à l'époque.
Voilà, c'est ça. Bon, Métrox, voilà. Dans un EREA avec des jeunes un peu en difficulté, mais c'était dans le 15e, mais c'était très bien, l'EREA Kronstadt. C'était parfait comme.
EREA, c'est quoi?
EREA, établissement régional d'éducation adaptée. Ça a peut-être changé.
D'accord, oui. Moi, le public n'est pas forcément facile. Enfin, les profs, des fois.
Mais bon, voilà. Ce que je disais aussi, c'est que, avec les élèves, même des élèves en difficulté, la magie de la cuisine fait que. C'est-à-dire que du riz, les pommes, on retrouve toujours la même chose. Des gamins qu'on a toujours mis de côté en classe, là, ils arrivent le matin et on leur donne du riz, des crevettes, et ils vont. 3 heures après, il y a une paella. Et d'accord. Ça, ils sont super fiers d'eux, de l'avoir fait tout seul et tout.
Là, donc, on passe à une autre façon de vivre du point de vue du salaire. Donc, il y a plus de place pour le dessin, la peinture. Ouais. Il y a des choses qui s'ajoutent en satellite, peut-être, au départ. Une galerie, démarchage, peut-être. Production.
Je coupe juste, c'est pour finir mon idée, mais parce que tu en avais parlé de l'exposition à l'Armor. C'est vrai qu'en tant que prof, y a du temps aussi. Y a les vacances, etc. Il y a quand même pas mal de temps. Il y a les week-ends. Donc, je continue à dessiner, à peindre. Et un été, j'ai exposé à l'Armor Plage, au Carnével, un bar qui s'appelait le Margaret. Et donc là, effectivement, l'exposition avait très bien marché.
35 tableaux, j'ai retenu, vendus. Hein.
Ouais.
C'est beaucoup. Hein.
Bah, c'était bien, hein, c'était très bien. Ouais, ouais, non, c'était remarquable. Moi-même, j'étais enfin, vraiment, voilà, bon, bah, sérieusement, l'idée de pouvoir faire ce métier-là, c'est vraiment venu à ce moment-là.
Ouais, mais vous l'avez pas fait, enfin, vous l'avez développé, mais vous n'avez pas encore fait la bascule. La bascule, c'est tout lâcher du côté de la cuisine,
ouais,
et tout prendre du ouais, côté de la. Et vous m'avez raconté d'autres choses. C'est un moment, par relation, la Brittany Ferry vous a acheté un tableau en même temps qu'elle achetait des tableaux à des professionnels, vraiment des gens qui en vivaient.
Ouais.
Ouais. Ouais. Et ça, encore une fois, c'est une couche supplémentaire.
Mais moi, j'y avais travaillé à Brittany Ferry. Donc, ouais, quand ils ont fait le nouveau bateau Pont-Aven, là, effectivement, on m'avait contacté parce qu'ils savaient que je dessinais, que bon, voilà. Et comment dirais-je, à ce moment-là... voilà, on m'a proposé de travailler, en tout cas de faire des peintures, dans le but de participer à la décoration du Pont-Aven de la Brittany Ferries, qui a été inaugurée, je ne sais plus en quelle année, en 2004, je crois.
D'accord. Et là, finalement, la bascule se fait, vous démissionnez, j'imagine, de l'Éducation nationale.
Ouais.
C'est pas rien, hein.
Démissionner. Bah après, j'ai rencontré Chloé Battissou.
Okay, votre femme.
Ouais. Et elle vivait de.
Ah oui, ça joue aussi. Ouais.
Elle vivait de son travail, elle vivait de sa plume, de elle écrivait pour différents magazines, différents journaux. Et c'est elle qui m'a. Elle, la cuisine, ça l'intéressait pas du tout. Hein. Moi, je l'avais rencontrée.
La cuisine l'intéressait pas.
Bah, mais... non, Mathieu, c'était le peintre. Hein, c'était voilà. Quelque part, en fait. Sans forcément le dire, mais bon, voilà, c'était... Et puis la perspective de pouvoir...
Non, mais ça, c'est intéressant. En mémoire, en miroir, elle vous envoie une belle image de vous, peintre,
ah, oui,
et une moins belle image de vous, cuistot, et vous, ça vous aide à...
Pas moins belle, mais disons que moi, je sais pas, quand on s'est rencontrés, il fallait que... que j'aille, à l'époque, j'étais enseignant à Machecoul, fallait que j'aille à Machecoul pendant 3 jours par semaine, que je revienne, tout ça, bon. Et puis... Voilà, je veux dire, on a commencé à se dire, ce serait trop bien si... voilà, si... En plus, elle travaillait chez elle.
Oui, il y a des gens que ça pourrait faire l'inverse. L'idée de se mettre en couple, d'avoir des enfants, tout d'un coup, il faut assurer. Et pour assurer...
Moi, j'ai jamais... En fait, même déjà commencé à faire de la peinture, après démissionner de l'Éducation nationale, parce que j'avais passé des concours, j'étais titulaire. Donc déjà démissionner de l'Éducation nationale, quasiment déjà c'est un parcours du combattant, parce ils veulent pas qu'on laisse quitter la secte. Hein. Ils étaient là, je me renseignais, ils étaient là, enfin démissionner, comment ça, on me raccrochait au nez. Et bref, déjà ça, faut quand même pas trop réfléchir quand on fait ces trucs-là.
Non,
et ensuite, pareil, ou avoir des enfants quand on est artiste peintre et tout, c'est quand même, c'est un sport de combat, parce qu'on ne réfléchit pas. Mais je dois dire, des fois je réfléchis pour certaines choses, et puis des fois, je dois dire, okay. Je me rends compte après. Mais c'est très bien, hein, c'est comme ça, la vie, en fait, finalement, elle est faite pour être grillée, hein, et pas faite pour la regarder passer. Hein.
Comme les Gauloises.
Oui, voilà.
C'est bien, là, on a la bascule. Et maintenant, on va débarquer ici, là, avec le micro, chez vous, dans cette belle maison. On a la vue sur la rade de Douarnenez, hein, même du sous-sol. Et on est dans l'atelier. Alors, avant d'attaquer, on va attaquer le métier de peintre,
la
vraiment.
La baie de Douarnenez.
La baie, ouais, la rade, c'est pour Brest, bon. La baie. On va...
Moi, j'aime bien la géographie, les cartes,
d'accord,
la toponymie, tout ça. C'est vrai que c'est un truc qui me passionne assez, notamment en breton, parce que j'ai quand même été, on ne l'a pas dit, mais j'ai été éduqué en breton par mon père. Moi, j'ai parlé en breton avec mon père jusqu'à l'âge de 13 ans.
Ah, c'est vrai?
Ouais. Mon père était un militant autonomiste breton, et c'est pas pour ça d'ailleurs, mais il nous a enseigné, à mes deux frères et moi, le breton. Il nous l'a même pas enseigné, il nous a parlé breton, c'est ma langue paternelle.
Ah, c'est vrai?
Ah oui, moi j'ai jamais appris le breton, j'ai toujours parlé breton avec mon père jusqu'à l'âge de 13 ans. Après, les choses se sont Bah voilà, après on a commencé à parler français. Moi, j'ai pas trop de souvenirs de ça, mais bon, les choses se sont décalées comme ça. Et c'est une langue que j'ai oubliée. Mais par contre, j'aime beaucoup la toponymie quand on va à l'île de Sein, quand on regarde le nom des cailloux, tout ça, c'est. Enfin, c'est chouette, il y a toute une poésie là-dedans. Et puis c'est une langue très poétique, le breton. C'est un peu comme, je dirais, c'est un peu comme la langue des Indiens, un peu. C'est une langue de paysans et de pêcheurs. C'est pas une langue de concept. Un grand philosophe breton.
Bah oui, non mais.
T'en connais, toi ?
Bah le breton, ouais, c'était quand même une région assez petite. Enfin, nous, j'en connais pas. Les philosophes, on pense aux Allemands d'abord, aux Français, aux Américains, aux Anglais, pas aux Bretons. Non, c'est vrai.
Ouais. Non, mais il y a pas de jugement de valeur. Je veux pas dire que. Ouais, mais c'est que avant tout, quand même, c'est un. Bon, il y a des intellectuels en Bretagne. Il y en a eu forcément. Mais malgré tout, ça reste. Et la langue, parce que c'est l'outil. La langue, c'est l'outil de la pensée quand même, en partie. Donc du coup, la langue bretonne, voilà, c'est quand même une langue de paysans et une langue de pêcheurs. Hein.
Oui, de religion aussi, quand même, peut-être.
Aussi, peut-être, mais très imagé, en plus.
Oui.
Hein. Martreut, cheval maigre.
D'accord.
Tu sais ce que c'est ?
Cheval maigre, c'est, je sais pas, c'est un passage,
non,
pas.
C'est un vélo.
Ah.
Alors, on peut dire vélo, hein, mais bon.
Ouais, moi, je connais le passage de la Chimère dans l'archipel de l'archipel de la Molène. Et bon, ce nom-là est aussi poétique, c'est sûr.
Ouais.
Bref, on est en Bretagne, d'ailleurs.
Il y a quand même, et du côté de Guernesey, le passage de la Déroute.
ouais.
Non, mais bon.
Oui, mais le bateau, c'est dangereux.
Non, mais c'est superbe, tu vois, passage de la Déroute.
Et d'ailleurs, vous m'avez dit la dernière fois au téléphone, quand vous étiez encore enseignant de cuisine, vous êtes dit, je vais dessiner la Bretagne. Ouais.
Ah oui, parce que j'avais tenté. En fait, ma cousine était son amie et c'était un type qui était. Il faisait la peinture, les murs, hein, les murs et les plafonds, chez Agnès B, les magasins Agnès B. C'était un Africain qui avait débarqué là, je crois, et finalement, elle s'était pris de sympathie pour lui. Et il allait partout, au Japon, aux États-Unis, etc. Il visait les magasins Agnès B, il peignait, etc. Il faisait partie de l'équipe qui mettait en place, quoi, en fait. Et lui, il m'a dit, mais ce gars-là m'avait dit qu'il pouvait me présenter le directeur de la galerie du jour, qui était la galerie Agnès B, etc.
D'accord.
Donc j'étais allé le voir avec ce que je faisais à l'époque. Puis le gars il m'avait dit, bon, bah ouais, mais bon, ça, nous, on exposait des trucs comme ça il y a 10 ans, mais enfin maintenant, bon, voilà. Et ben ça ne m'a pas démonté du tout, ça. Mais c'est peut-être une force que j'ai, oui, effectivement, de ne pas me laisser... Bon, voilà, quand il y a une... Ça aurait pu être une contrariété, j'aurais pu me dire, ah ouais, c'est nul et tout. Mais non, en fait, pas du tout. Je me suis dit, bon, bah très bien, c'est une espèce de... Je mettais des images, en fait, Je juxtaposais deux images, mais
vis-à-vis,
un peu paradoxales, tu vois, des diptyques, des choses comme ça. Puis je me suis dit, bon, bah ok, basta, j'irai en Bretagne, j'irai dessiner, je dessinerai comme faisait mon oncle. Mon oncle écossais, je ferais pareil.
D'accord.
Je verrais bien, je ferais pareil. À l'époque, il n'était pas encore question de devenir professionnel.
D'accord.
Sauf en rêve, en fait, sauf un espèce d'absolu, mais lointain, qui est derrière l'horizon, voilà. C'était quand même... Ça m'arrivait de m'imaginer quand même en allant à pied au lycée donner mes cours de cuisine. Ça m'est arrivé de m'imaginer ayant une galerie à Paris, une à Tokyo, comme en marchant dans la rue. Je me disais, ah ouais, ce serait bien. Et tout ça. Mais c'était un truc au-delà de l'horizon. C'était... voilà.
Bon, là, maintenant, on va visiter l'atelier d'ici. On va faire le tour de l'atelier... Et vraiment tout, hein, faut tout voir, comment tout se transforme ici pour fabriquer des tableaux. Et après, on va parler vraiment du métier, on va réasseoir. Puis après, on va creuser un tableau au choix. Donc on va d'abord, on vous suit dans ce magnifique atelier. Alors il faut vraiment prendre toute la dimension. Hein. Ouais. Globalement, déjà, la surface est immense, c'est très lumineux.
Immense, ça fait 100 mètres carrés.
Combien ?
100 mètres carrés.
100 mètres carrés, ouais.
Bon. Ouais, enfin, immense. C'est pas Décathlon Brest, hein.
Non, mais c'est pas un atelier parisien, par exemple, où on en parlait.
Il y a de la place.
Il y a de la place. Il y a de la place, il y a de la lumière aussi, beaucoup de lumière.
Ouais, ouais. Mais, oui, il y a des verrières au plafond, de façon à avoir la lumière zénitale un peu. Et puis, quand on est orienté sud ici, Donc, j'ai gardé quand même le mur, tout le mur, le grand mur sud, là, bon, limite un peu les entrées de lumière trop vives, trop saillantes, quoi. Et c'est juste là, un petit peu à l'ouest, effectivement, il y a une ouverture qui fait rentrer la lumière. Mais il y a quand même toute une partie de l'atelier où il n'y a pas de lumière saillante, c'est-à-dire il n'y a pas de tache de lumière, quoi, qui gêne quand on peint. Souvent, les ateliers, c'est une lumière du nord.
Oui, j'ai entendu ça, ouais. Ouais.
C'est orienté c'est... nord, quoi. D'accord. Parce que, en fait, la lumière du nord, elle est à peu près égale.
C'est ça, il faut obtenir une lumière qui ne différencie pas ce qu'on voit, c'est ça ?
Ouais, bah, disons que, par exemple, là, s'il y a un nuage qui passe, moi, bouh, tout va s'assombrir. Parce que j'ai quand même de l'ouverture sur le sud-ouest, là.
D'accord.
Je pense que lumière du nord, c'est, la lumière, elle est beaucoup plus lunaire, quoi. C'est
d'accord.
Beaucoup
plus, Il y a aussi de l'éclairage artificiel.
Ah oui, parce que je bosse beaucoup la nuit, j'aime bien, moi.
Ah oui ?
Ouais.
D'accord, ouais, c'est le reste de Cuisto.
Ouais, non, mais c'est surtout qu'on est tranquille. Il y a, ouais. J'aime bien l'idée, quand tout le monde dort, voilà, nous, on, ouais. Ça travaille. C'est, la nuit, c'est un truc particulier. Quoi.
Donc, on continue la visite.
Alors, on peut commencer par quoi ? La bibliothèque.
La bibliothèque, oui, c'est intéressant, oui.
Ouais.
Il y en a deux, d'ailleurs.
Bah oui, parce que... Bon, alors, elle est super. Elle n'est pas rangée, en fait. Bon, bah là, il y a tous les catalogues, en fait. Tous les catalogues des peintres que j'aime bien.
Donc, des catalogues d'exposition.
Ouais, catalogues d'exposition.
Il y a les
moi, je suis éclectique. Hein. Ouais. J'aime bien plein de choses. Hein. Ça va de Cy Twombly, peintre américain. Marquet, j'aime beaucoup. Munch, Monet, Manet. Eugène Leroy, c'est superbe. Ouais. Mondrian. Très conceptuel, tout ça, mais j'aime bien quand même. Et puis, ça, j'ai la collection aussi des Masno, ouais, ça c'est vraiment
oui,
chouette.
C'est pas rien,
ouais, c'est vraiment bien ça. C'est un copain chineur qui, des fois, j'échange avec lui. Il m'en amène deux ou trois, et puis je lui file un dessin, quoi.
C'est bien.
Bah ouais, c'est ça, ça peut faire du troc, des fois, les. Non ?
Ouais, ouais. Bah oui. Donc après la bibliothèque, au fond, moi,
Soulages.
Ouais.
Ouais, Turner, oui. Ah, oui. Turner, c'est fascinant. Ah, hein. Oui, c'est un des premiers. Je sors quand même, on regarde juste, hein, mais c'est vraiment. Quand on
dites,
voit, là...
dites ce que vous prenez là-dedans, par exemple. Comment ça vous traverse et ce que vous en faites ?
Bah là, Turner, c'est 1830. Hein, Turner, hein, je me rappelle plus de sa date. Il est né en 1790. Donc dès 1820, il fait des choses franchement abstraites. Hein. Bon. Là, tu vois ça, bon, c'est des aquarelles comme ça, des espèces de... Tu vois ça, par exemple, j'aime beaucoup les ciels comme ça, là.
Oui.
C'est vraiment... c'est très, très chouette, quoi. Hein. Et c'est quand même... c'est 1820, quoi. C'est vieux, quoi. C'est vraiment des précurseurs. C'est vraiment des gens qui renversent la table. Hein. Renversent la table complètement. Hein. Quand on voit le paysage en 1820, ce qu'on fait, ce qu'il fait lui, bon, là, on passe dans la modernité, quoi. C'est vraiment des peintres comme ça, charnières, je trouve. Monet, pareil. Monet, il est à l'origine de deux révolutions, de l'impressionnisme. Alors, c'est déjà beaucoup, déjà pour un
oui,
artiste.
Oui, il est connu pour cela. Ouais.
Ben voilà. Mais l'abstrait, l'abstraction. Parce qu'à la fin, c'est carrément abstrait. Le vieux Monet, il est abstrait. Hein. Et les abstraits... américains s'en sont beaucoup inspirés. John Mitchell.
Tu parles des nymphéas, tout ça. Enfin,
ouais, vraiment la fin. Ouais, les nymphéas, mais il a fait des trucs. Hein. Bon, là, il faudrait que je retrouve le bouquin parce que. Alors, tu vois, c'est un petit peu en désordre et c'est pas classé. Des correspondances d'artistes, des entretiens avec des artistes. Ça, j'aime beaucoup lire ça parce que. T'apprends beaucoup la correspondance. Bah, par exemple, Bram Van Velde, des entretiens oui. Avec Charles Juliet. Ça fait du bien de voir que parfois la vie d'artiste c'est dur hein.
Oui.
Non mais bon c'est
en toi, fait tu crées une collectivité.
Non attends, je reviens à Monet, il écrit à Bazaine, son ami Bazaine, il lui écrit, il a trois enfants déjà hein. Il lui écrit, dit oui hier, bon je crois que j'ai fait une bêtise hier etc, je me suis jeté dans la Seine. Mais bon, j'ai réussi à regagner le bord, on m'a aidé, etc. Donc, à plus de 40 ans, Monet, il se jette dans la Seine. Hein. Et il y a eu des périodes où c'est la dèche totale. Totale. Il y a des périodes où ça va, et après, c'est la vraie, la dèche, quoi.
C'est ça, ouais.
Parce que les gens s'en foutent.
Ok, on va continuer, peut-être, dans ce couloir. Il y a comme un couloir un peu sombre.
Ah ouais, bah là, bon, alors après, ici, là, je range le matériel, les pigments. Je ne l'utilise pas beaucoup. J'utilise la peinture qui est déjà en tube. Hein. J'avais acheté les pigments une époque, mais je ne m'en sers pas beaucoup. Mais je vais m'en resservir, là, parce que j'avais eu quelques idées pour les utiliser d'une façon un peu différente. Il y a les peintures à l'huile, il y a les pastels, ici, rangés. Et puis tout le matos dont on a besoin, tous les scotchs, les chiffons. Là, il y a la toile, les toiles à tendre. Puis là, c'est l'évier, en fait, c'est là où je viens nettoyer tout le matos, quoi.
Oui,
ça, on connaît, hein, quand on était à l'école primaire et tout ça, bah, on allait à l'évier nettoyer nos pinceaux et tout, bah voilà, c'est pareil.
D'accord.
Avec tous les produits, là. Alors, la peinture, c'est pas très écolo, hein, parce qu'on utilise plein de produits... tous les vernis et tout ça, bon, c'est quand même c'est des trucs assez nocifs, en fait. Enfin, moi, j'en utilise pas trop. Hein. Mais bon, c'est de la chimie, quoi.
Oui,
en
oui,
gros,
oui,
c'est de la chimie. Et là, il y a tous les tasseaux pour tendre des châssis.
C'est toi qui fais les châssis, ouais.
Bah, moi, j'achète les tasseaux, quoi. Et puis après, les entretoises et puis les baguettes. Et après, je les mets au format.
Alors, ici, sur ma gauche, il y a des tas de tableaux dans des cartons.
Ouais, ça, c'était un retour d'exposition. Ouais. Je ne les ai pas déballés, ils sont emballés. Bon, bah, voilà, je les ai laissés emballer.
D'accord. On revient à la lumière.
Ouais, parce que là, on était dans le fond de l'atelier. Il y a le stock de tableaux ici aussi, avec les grands formats qui sont là. Et puis bon, il y a tout un tas de tableaux. Bon, enfin, c'est un peu la, comment dirais-je, c'est la bibliothèque à tableaux, quoi.
Parce qu'en fait, il y en a énormément. Tu pourrais chiffrer. Oh,
ah, j'en sais rien. Hein, je sais pas.
En dizaines.
500, 700, je sais pas.
Ah, c'est vrai.
Bah, j'en sais rien. Bah attends, mais je vais ouvrir les tiroirs. Parce que ça, c'est les tableaux, c'est ce qui est encadré. Tu vois, c'est ce qui est tendu sur toile. Alors après, tu vois, il y en a encore plein ici, là, sur les étagères. Et ensuite, j'ai mes tiroirs. Tu vois, mes tiroirs, ils sont pleins aussi.
Aïe, aïe.
Tu vois.
Comment ça se passe après? Tu fais des tris pour...
Oh non, là, moi, je dois dire, là, il faudrait vraiment que je fasse du rangement, là.
Ah, ok.
Ouais. Et là, j'ai perdu ce côté qu'on avait en cuisine, là, de tout bien, tous les soirs, hop, on remet tout en place, bien, nickel et tout. C'est une discipline que j'ai pas toujours. Enfin, là, en ce moment, comme je fais beaucoup de peinture à l'huile, je suis quand même obligé de, le soir, de tout bien nettoyer, les pinceaux et tout ça. Mais c'est vraiment... C'est comment dire, c'est fastidieux, quoi. Hein. Surtout, bah, je sais pas, à 1h30 du matin, bon, à nettoyer les pinceaux.
Ouais, mais si tu décides de faire une exposition, à un moment, une exposition se met en place, t'as 700 tableaux, comment tu fais?
C'est-à-dire?
Il y a quelqu'un, je sais pas, tu rencontres quelqu'un qui veut une exposition, de te faire une rétrospective, je sais pas.
Bah, attends, voilà. On n'y est pas encore, hein. Personne ne m'a proposé de rétrospective. Je veux dire, quand je fais une expo, ouais, mais je ne mets pas 700 tableaux.
Non, mais justement, mais comment tu fais pour sélectionner? On te dit, on veut 20 tableaux. Comment tu fais?
Ah, mais en général, je prends la production, je prends en général ce que j'ai produit récemment.
Oui, c'est qu'il y a en surface, quoi.
Ouais, voilà, ouais, c'est ça, voilà.
D'accord.
Okay. Et puis après, le reste, ben voilà, ça vient par strate, quoi, tu vois.
Ok, ouais.
Ça vient s'accumuler. Il y a plein de choses hyper différentes, hein. Tu vois, j'ai fait des choses comme ça. Il y a plein de. Moi, je suis assez éclectique, hein. Donc là, il y a tous les tiroirs, en fait, où, avec des centaines et des centaines de peintures à l'huile ou pas, ou des petits formats, des grands.
Ouais, ça chaume pas, hein. Okay, ok.
Bon, voilà. Enfin, on voit quand même qu'il y a besoin de rangement, hein.
Ouais. Et on voit qu'il y a de la production aussi.
Ouais.
Après, là-bas, il y a un bureau avec un ordinateur, tout ça. Ouais, bon, ouais. C'est classique, ça.
Ouais,
c'est...
bah oui, parce qu'on a toujours besoin d'un ordi. Pour... Le matin, moi, je suis plutôt... je réponds les mails, les machins. J'attaque rarement le matin direct la peinture.
D'accord.
Ouais.
Il y a les chevalets, hein, j'en vois deux.
Ouais. Ouais, ça, c'est... oui. Mais je peins pas beaucoup sur chevalet, je peins beaucoup par terre, en fait.
Par terre,
hein. Ouais, plutôt, ouais.
C'est pas mauvais pour le dos, hein.
Bah, en fait, c'est plutôt comme ça que ça se passe.
D'accord.
Pour l'instant, ça va. Je suis pas. Pour l'instant, ça va.
D'accord.
Peut-être qu'un jour, je pourrais bon, plus. À ce moment-là, je travaillerai sur des tables.
D'accord.
Tu vois.
D'ailleurs, je vois une table de ping-pong là. Bon. Donc, ça donne la taille un peu.
Ah oui, bah oui, oui. La table de ping-pong. Ouais, bah ça, c'était bien. Ça, avec mon fiston, on joue au ping-pong de temps en temps. Là, ça va, ça détend, c'est agréable.
Sans doute. Merci, Mathieu. Dans le prochain numéro, nous retrouvons Mathieu Dorval et nous irons dans le détail du métier de peintre. Les sources d'inspiration, paysages ou poètes, les matériaux, les croquis sur le vif, le travail dans l'atelier, le grand plaisir, mais aussi parfois les difficultés de l'activité. Prochain portrait, prochaine histoire, prochain métier au prochain numéro de Un bon boulot. Témoignages, discussions et reportages sur les grandeurs et les misères du travail.